9h sur Présence, après une fin du flash info un peu brutal, c'est tout de suite l'actualité cinématographique avec N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous. Nous avons déroulé le tapis rouge pour nos auditeurs et nous avons mis notre plus beau costard.
Oui, je vois que vous êtes...
Le ventre vous sied très bien.
Oui, j'aime beaucoup votre nœud papillon.
Ouais. Votre cravate noire.
Écoutez...
Nous n'avons pas le même tailleur, apparemment.
Je vous donnerai l'adresse du mien, vous me donnerez l'adresse du vôtre.
Oui, avec plaisir.
Alors, en attendant, vous allez quand même parler à nos auditeurs et leur conseiller des films à voir depuis le fond de son canapé. Combien ce soir?
Oui, on peut mettre sa plus belle robe et son plus beau costard et rester dans son canapé pour regarder la télé. À ce moment-là, il y a un choix de 5 films pour cette semaine. Et un petit conseil de lecture qui concerne, bien sûr, le Festival de Cannes.
Ah oui,
on couvre l'actualité.
Oui, vous nous faites rêver, là, Laurent Martin. Lui aussi est très beau et en plus, il a un magnifique couvre-chef. N'est-ce pas?
Vous trouvez pas? C'est vrai, ça revient à la mode, chapeau.
Guillaume Sidom, bonsoir.
Bonsoir, un chapeau cannois, tout à fait.
Il fallait au moins ça pour monter les marches. Vous aussi, dites-nous ce dont vous allez nous parler ce soir.
Ce soir, le premier artiste noir de la scène française dans un très beau film au message intemporel d'égalité et de fraternité. Ça sera retrouvé ce samedi au Pathé Wilson. Dans le cadre du Pathé Wilson fait son cirque.
Et oui. Alors il y a à Cannes le festival, au Pathé Wilson le cirque. On va plus savoir où donner de la tête. Un petit tour de trapèze avant de monter les marches. En fait, ça va être un petit peu compliqué tout ça. Ça l'est pas, en tout cas pour notre homme de loi des séries, Grégory Com, et son tribunal des séries qui va nous parler ce soir de The Last of Us, la saison 2. Aïe, qui n'a pas trouvé grâce à ses yeux, ça va. Ça va être terrible.
Série tirée des jeux vidéo.
Oui, des jeux vidéo. La saison 1 avait remarquablement bien marché. Il semblerait que pour Grégory Com, l'espérance n'est pas au rendez-vous. Vraiment. Vous nous direz, vous pouvez toujours nous envoyer un petit mot pour nous donner votre avis sur ce qu'on raconte, bien sûr, cinéma@radioprésence.com. On n'est pas à l'abri de quelques critiques et on les assumera, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le panier de l'ouvreuse? Nous aurons au téléphone Sandrine Mercier, une des co-réalisatrices avec Juan Hidalgo, de Se souvenir des tournesols, le documentaire tourné pas loin d'ici, dans le Gers, et produit par VO Productions, une boîte de production toulousaine qui est en lien aussi avec l'Espagne, et elle nous dira tout sur ce film remarquable que vous pouvez découvrir dès aujourd'hui dans les salles, puisqu'il est il figure parmi les nouveautés de la semaine. Après quoi, nous irons jeter un coup d'œil à Cannes. Laurent, nous sommes là pour monter les marches et pour montrer comme nous sommes bien, bien habillés, tous les trois, et l'ouvreuse, évidemment, superbe dans sa robe du soir. Elle est extraordinaire. J'aime beaucoup quand elle met son dos nu.
C'est vrai. Elle a un panier d'or, comme elle palme.
Ah là là. Ouais. Enfin, on n'a pas l'œil critique, on l'aime trop.
C'est vrai.
C'est vrai. Quoi d'autre encore dans le panier de l'ouvreuse? Eh bien, elle va scruter l'affiche de la semaine, parce que vous avez l'habitude maintenant, pendant les festivités cannoises, tout ce qui se passe sur la croisette occulte le reste du monde cinématographique. Ouais. Donc, il y a peu de nouveautés, c'est le moins qu'on puisse dire, si ce n'est quelques films qui sont présentés à Cannes aussi, en même temps. Donc, on a l'occasion de les découvrir. Et puis, il y aura les reprises sur le petit écran, on en a déjà parlé avec vous, Laurent, c'est vous qui nous les conseillerez, mais il y en aura là aussi une, deux, trois ou quatre, qu'on vous conseillera d'aller voir cette semaine. Et puis bien évidemment, en fin d'émission, il y aura des coups de cœur, parce qu'on a toujours des films, des manifestations, des expositions qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Bon début de soirée avec nous. Allez, installez-vous confortablement, la projection commence tout de suite.
Tiens, tant que t'es là, regarde donc ça. On va l'accrocher demain. Tiens, attrape ça, toi. Tiens, la vieille, elle a des charges. Hein ? T'as de la gueule, non ?
Quitte à changer de banderole, vous auriez pu changer de nom. Cirque Mange-Merde, ça a de la gueule aussi.
Quoi ?
Mange-Merde.
T'es pas obligé de parler comme un nègre. On peut être des gens de cirque et s'exprimer convenablement.
Mon partenaire et moi, on veut 7 francs par jour.
Pardon ?
Il plaisante.
C'est comme tu veux, Delvaux. Sinon, demain matin, on n'est plus là.
Oula, les négociations sont terribles au cirque Mange-Merde. Enfin, je dis ce que dit le personnage. Hein. Et dites-nous, pourquoi ça se passe si mal, Guillaume Sidom ?
Eh bien, parce qu'ils veulent une augmentation pour se présenter devant le public du cirque et pour le film Chocolat, film de Roche Dizem de 2016, tiré d'une histoire vraie. Avec Omar Sy, James Terré, musique signée Gabriel Yared, que vous entendrez à la fin de ma chronique. Être chocolat, je vous apprends rien, signifie la manière de se faire balader, envoyer promener. Intéressant d'observer que le vrai chocolat de l'histoire, celui-là même qui vous raconte sa véritable histoire, est un noir qui n'attend pas grand-chose de la vie, mais quand celle-ci finalement lui sourit, il va la croquer à pleines dents avant de se les mordre. C'est une histoire tragique et picaresque, incroyable mais véridique, je l'ai dit, tellement révélatrice aussi des préjugés sur un homme de couleur qu'elle tape dans l'œil de l'acteur et réalisateur Roche Dizem, du comédien Omar Sy et donc de Gaumont. Foutit est le clown blanc, il n'est plus au top, son numéro de clown vous fait de moins en moins rire, et un jour dans un petit cirque tenu par des Thénardier, il va apercevoir un grand black, ex-esclave devenu de Cuba. Il pressent en ce solide gaillard un faire-valoir idéal, il va être encore mieux. Et en quelques mois, Raphaël Padilla, un surnommé Chocolat, devient l'idole du Paris de la fin du 19e siècle. En 1896, Toulouse-Lautrec le croque dans une de ses célèbres toiles. Un peu plus tard, ce sont les Frères Lumière qui le filment avec son alter ego pour leur nouvelle invention, le cinématographe. Et dans Portrait Souvenir, Jean Cocteau écrit même « Il y avait Foutit et Chocolat, Foutit était comme une duchesse folle et Chocolat recevait lui des claques. »
Et Roche Dizem montre précisément l'ambiguïté des rires que le duo suscite.
Oui, à la fin de chaque sketch, Chocolat accepte de se laisser malmener par son partenaire, quelle que soit l'histoire. Il est le dindon de la farce, il reste Chocolat. Pouvez-vous imaginer l'inverse ? Le blanc rossé par le noir, impossible, vous éprouvez dès lors un certain malaise devant ces foules hurlantes et hystériques, manifestant un racisme aussi bruyant qu'inconscient. Omar Sy vous séduit complètement et James Terré, le digne petit-fils de Charlot, vous émerveille. Chocolat ou l'aventure extraordinaire d'une bête de foire qui, à la fin du 19e siècle, va arrêter de faire le clown cannibale pour devenir un vrai clown. Raphaël Padilla, de son vrai nom, s'associe donc avec Foutit, un autre célèbre artiste de la piste. Il forme alors le premier duo qui sévit toujours à travers le monde entier, l'Auguste et le clown blanc. Roche Dizem saisit l'opportunité ici de raconter une histoire hors du commun qui, au-delà de la vie du cirque, de ses aléas, de ses lumières, remet en perspective complètement le sort des peuples opprimés. Qu'importe l'époque, les origines, les racines, payé deux fois moins que son partenaire, Chocolat est le gentil bouffon qui se prend les coups de pied au cul, et ça peut vous paraître anodin sous le feu des projecteurs, mais la manière dont le réalisateur lui donne le rôle de l'idiot donne à la situation une certaine lucidité.
La vertu de ce film, quand même, est avant tout pédagogique.
Oui, en effet, il vous enseigne un destin méconnu, vous rappelle ce qu'est le racisme ordinaire dans la France républicaine de la fin du 19e siècle, tout en brossant le tableau d'un milieu parisien du spectacle. Cette liberté prend ses grands airs au fur et à mesure que les héros découvrent la réussite et le succès, sans remarquer que les flatteurs ont le sourire crispé. Et Chocolat va se noyer dans la vie facile, les filles qui le sont tout autant, l'alcool, la drogue. Il ne voit pas la méchanceté de quelques-uns, prompt à le renvoyer dans sa cage, comme la Guenon qui l'accompagnait à ses débuts. Sans l'omniprésence talentueuse d'Omar Sy, la parfaite composition de James Terré, alter ego dépassé par les enjeux sociaux de son partenaire, l'ensemble ne supporterait guère le poids d'une telle destinée. Le réalisateur a su la canaliser sans conférer à sa mise en scène pour autant l'extraordinaire du récit porté sur le scénario. Roche Dizem parvient à maîtriser son biopic grâce à une narration tendue, à une reconstitution historique pertinente et à des acteurs hors normes. Au-delà de la question raciale, le film pose alors une question qui résonne avec leur parcours artistique. Un artiste peut-il échapper au rôle qu'on lui assigne ? À retrouver donc ce samedi 17 mai, 11h, au Pâté Wilson de Toulouse. C'est dans le cadre du Pâté Wilson fait son cirque. D'autres films magnifiques sont programmés. Et en Blu-ray et DVD chez Gaumont Éditions. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon. Et surtout, allez au cinéma.
Guillaume, vous l'avez annoncé, Guillaume Sidom, dans sa chronique, c'est bien Gabriel Yared qui a composé la bande originale du film Chocolat de Roche Dizem. Musique de cirque, disais-je, pour conclure la chronique de Guillaume Sidom et pour venir à parler avec Sandrine Mercier. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
J'imagine que vous avez, les pieds un peu à l'étroit dans vos chaussures, ou c'est un peu crispé peut-être parce que votre nouveau film
est...
et des tournesols aussi.
Alors, dans les yeux.
Des tournesols dans les yeux, on imagine. Ce souvenir des tournesols, c'est le titre de votre documentaire que vous signez avec Juan Hidalgo. Juan Gordillo Hidalgo. Il faut dire son nom entier. Et se souvenir des tournesols, dites-nous Sandrine Merci, mais pourquoi donc faut-il se souvenir des tournesols ?
Eh bien parce qu'il faut toujours se rappeler un peu d'où on vient, de ses racines, de ce qui nous forge, ce qui nous façonne dans la vie. Et c'est l'histoire de ce documentaire, en fait, à travers les yeux d'Anaïs, qui est une jeune lycéenne de 17 ans qui va passer le bac. Elle va s'en aller pour faire ses études ailleurs, puisqu'elle vit dans un petit village du Gers. Et elle va devoir dire adieu, du coup, à la vie à la campagne, à sa famille et surtout à la banda, vous savez, les fanfares locales des villages. Et donc, c'est le dernier été sur ces terres où elle va prendre conscience de tout ce qu'elle aime et de tout ce qu'elle va devoir quitter.
Alors, qu'est-ce qui vous a amené à la création de ce film ? Parce que, elle va quitter ses parents, elle va devoir aller faire des études bien loin de sa commune, c'est l'endroit où elle a grandi. Et vous parlez aussi dans votre film de la diagonale du vide.
Hein ? Exactement.
Il y a aussi ça dans votre film. Il y a cette fille, ouais. Et puis c'est français qu'on oublie, quoi, qu'on croit
exactement.
Oublier.
Exactement. C'était vraiment l'objectif avec Juan. On voulait mettre en lumière ces invisibles, ces gens qu'on voit jamais. C'est une sorte de manifeste un peu à nos campagnes, à tous ces gens qui vivent très bien pour certains, d'autres effectivement qui font le choix de partir parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autres solutions. C'est un faux choix. Et en fait, on posait la question autrement. Alors c'est vrai que la question de base, le dilemme du film, c'est partir ou rester quand on habite dans ces zones ultra-rurales. Mais ça pose aussi la question de partir et peut-être est-ce qu'on peut revenir ? Est-ce qu'on a la possibilité de revenir si on a envie de trouver un emploi ou si on a envie de s'installer ou d'être soigné ? Parce que ça dénonce un peu toutes ces inégalités territoriales, tous ces déserts médicaux, administratifs, culturels. Et donc, on avait envie, à l'inverse, de la remplir, cette diagonale du vide, de la remplir de joie, de la remplir de musique surtout, et de montrer qu'il y a des gens qui y vivaient bien, et en tout cas qui essayaient de faire tout pour rester là.
Ah oui, c'est joyeux. À aucun moment, la jeune fille, bon, Anaïs, c'est la fatalité d'une certaine façon, c'est comme ça qu'on peut le dire, va devoir quitter son village, ses parents, sa famille, sa petite sœur. Mais à aucun moment, il y a ce sentiment, il y a un peu de mélancolie, bien sûr, mais cette douleur de quitter, il y a toujours de la joie dans ce que vous montrez.
En fait, c'est vrai que quand on a voulu faire cette ode un peu aux campagnes et encore une fois à nos racines, nous tous les deux, Juan et moi, on vient d'un bout et de l'autre de la fameuse diagonale du vide, et on s'est dit on est parti par la force des choses, mais en fait est-ce que tout ça nous forge pas aussi, est-ce qu'on se souvient pas avec mélancolie, avec douceur de ces années passées dans ces endroits-là? Donc c'était une façon, oui, de raconter autrement ces inégalités. On voulait pas forcément de faire un film noir ou en tout cas négatif, et on voulait montrer qu'il y avait une énergie, qu'il y avait des gens vibrants, et que surtout il y avait un vivre ensemble et une solidarité très forte en fait à travers cette fanfare et ces gens dans les villages. Et en ces temps difficiles, on va dire, où tout est assez compliqué, on trouvait que c'était quand même un beau message en fait que de dire que oui, c'était aussi possible de vivre ensemble et d'être solidaires.
Les couleurs de votre film sont extraordinaires. La photographie est magnifique. On se souvient donc des tournesols, de cette luminosité, de ces paysages que vous nous montrez, incroyables. Comment avez-vous su maîtriser autant la qualité de la prise de vue et de la photographie?
Merci beaucoup. Alors c'est vrai que les images sont signées de Juan. En fait, on a des optiques cinéma. On a vraiment travaillé pour le cinéma dès le début, dès l'écriture du film. On voulait un film cinématographique. Encore une fois, pour mettre amener ces gens sur grand écran dans les cinémas, là où rarement on les voit. Et donc tout de suite, on a pensé au cinémascope, qui est cet écran très large, en fait. C'est-à-dire que l'image, elle prend tout l'écran. Et ça, pour nous, c'était une façon aussi de renvoyer la générosité que les bandas nous renvoyaient, que les gens sur place nous renvoyaient. On voulait qu'ils rentrent aussi tous dans l'image, et ça, c'était pas forcément évident, parce que dans certaines bandas, ils sont jusqu'à 70.
Ah oui, ça fait du monde.
Voilà, ça fait du monde. Et donc, on voulait être aussi généreux qu'eux, les voir comme ça. Et sublimer ces paysages qui sont magnifiques, ces paysages du Gers qui sont sublimes, pour que le dilemme justement soit encore plus fort, complexifie un peu ce départ, partir, rester, comment faire quand on aime autant un endroit, quand c'est aussi beau et que la nature en fait est là et omniprésente. Et ça, c'était aussi une façon de raconter la nature et ces paysages-là à travers des tableaux. On a filmé un peu sous forme de tableaux.
Ben, c'est particulièrement réussi, les tableaux sont remarquables, un peu comme les dessins que fait Anaïs quand elle est dans ce champ de tournesol, puisqu'elle les dessine, les tournesols, donc on la voit, on la voit dans les champs.
C'est vrai qu'elle aime les tournesols, elle peint des tournesols, tous nos personnages, puisqu'il y a Eric le viticulteur, a un champ aussi de tournesols qu'il cultive, en bas de Thierry, le chef d'orchestre, il y a aussi un champ de tournesols, et on s'est rendu compte après coup que le Gers était le premier département à avoir le plus de tournesols, et qu'en plus, c'était la fleur du bonheur. Alors là, on s'est dit, bon ben voilà, je crois qu'on a notre titre.
Après, oui. Le titre ne pouvait plus vous échapper. Allez, faites-nous une confidence, Sandrine. Anaïs, c'est un peu vous, les dernières images du film le laissent entendre.
Oui, complètement, c'est mon alter ego, c'est-à-dire que moi aussi je suis partie. Alors moi, à l'inverse, j'avais vraiment très envie de me barrer, comme je disais à l'époque, je voulais, parce que pour moi, en fait, pour réussir, il fallait forcément partir, c'était lié, et aujourd'hui, en fait, peut-être parce que j'ai mûri, j'ai grandi, et c'est intéressant de regarder dans le rétroviseur, encore une fois, pour voir d'où on vient, ce qui nous a forgé tout ça, et c'est en ça que, évidemment, Anaïs n'a pas conscience de tout ça, mais c'était un peu l'idée de se dire, ben, souvenons-nous aussi de tout ce qui a fait notre enfance, sans être forcément trop mélancolique, mais en tout cas pour dire que, ben, c'est aussi sympa de regarder dans le rétro et de voir ce qu'on est devenu et d'où on vient de ces belles racines, en tout cas pour nous.
En tout cas, le film est remarquable. Il est en salle aujourd'hui, je le disais. Oui. Et vous le présentez ce soir, vous l'accompagnez ce soir à Toulouse au cinéma ABC à 20h30. Mais après, on peut le voir partout dans la région. J'ai choisi au hasard. Bon, il y a l'ABC à Toulouse, cinéma dans lequel il sera programmé. Et il y a aussi pour nos auditeurs de Montauban, CGR Montauban, Le Paris. Il est également programmé. Sinon, il est près de chez vous. Regardez.
Il est aussi dans le Gers. Il est aussi dans le Gers. On va retourner à Nogaro mardi 20, parce que c'est là où on a tourné. Donc, on y retourne. On sera à Condon ce vendredi. Il est dans plein de salles du Gers, qui le passe. Et effectivement, il est à Pau aussi, là où est Anaïs, au Méliès. Il est dans une quarantaine de salles en France. Et ça, pour nous, c'est nouveau et c'est un pur bonheur, parce que vraiment voir ton film au cinéma, se rendre compte que les gens qu'on a filmés, les gens qui nous ont touchés vont toucher d'autres personnes, ça c'est une aventure assez exceptionnelle et on espère que ça sera partagé massivement.
Avant de vous laisser partir pour l'ABC, Guillaume Sidom a quelque chose pour vous.
Oui, bonsoir. Je voulais savoir, au fil de cette année de tournage, donc, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou le plus bousculé ?
Ce qui nous a le plus surpris, en fait, on va dire, pendant le tournage, c'est cet attachement, justement, très fort, au Gersois, parce qu'encore une fois, moi, quand je suis partie, alors ça fait un peu longtemps maintenant, mais c'était plus une évidence de partir. On allait dans la grande ville, c'était logique. Et en fait, on se rend compte avec les années, et les profs nous l'ont dit, notamment au lycée de Nogaro, qu'il y avait un vrai attachement des jeunes pour leur campagne, pas forcément pour le Gers, mais en tout cas, oui, pour la campagne, pour la ruralité. Et ça, ça nous touche aussi, parce que c'est vrai qu'on dit toujours qu'il faut aller forcément à la ville, comme si la ville était forcément le lieu de réalisation par excellence. Et non, en fait, c'est peut-être possible aussi à la campagne, mais en tout cas, toujours est-il que même s'il faut partir à un moment donné, peut-être que dans l'avenir, ils y retourneront s'ils ont la possibilité de pouvoir y vivre et y travailler.
Eh bien, merci Sandrine Mercier. Votre film que vous co-signez avec Juan Hidalgo, eh bien, est proprement magnifique, et on espère, on lui souhaite le plus beau parcours qu'il puisse avoir. Je rappelle que ce soir, pour les Toulousains, vous êtes à l'ABC à Toulouse, et puis sinon...
Avec Olivier Cussac aussi, le compositeur original, parce qu'il y a une musique originale dans le film.
Bien sûr. ce soir, on vous souhaite plein de belles choses, et nous sommes vraiment très heureux et très flatté que vous nous ayez permis de parler avec vous juste le jour de la sortie de ce souvenir des tournesols. Merci encore,
Sandrine.
C'est moi
qui vous remercie, Louis-Marie. Merci beaucoup.
Et on va écouter un extrait de la bande-annonce qui en dit beaucoup. On aura des tournesols plein les yeux. Au revoir, Sandrine.
Au revoir, merci encore.
Mais on est dans la diagonale du vide.
Non, le Gers, c'est pas vide.
Les formations que vous avez choisies, si elles existaient ici, vous resteriez ici.
La campagne, c'est à la fois tout ce qui est le côté paisible.
On dit diagonale du vide, mais c'est juste que les gens ne savent pas s'occuper. Parce que moi, tu mets une forêt, un lac, je peux dire autre chose.
Pourquoi tu veux être agriculteur ?
Parce que j'aime ça et j'aimerais travailler dehors.
Et à la fois, un peu ce côté festif du fait d'être dans le sud-ouest.
Particulièrement bien choisi ce titre des Clash, Should I stay or should I go, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? C'est toute la question que se pose Anaïs justement dans ce souvenir des tournesols, belle partition musicale signée Olivier Cussac, et bien évidemment il y a les bandas, pas de Gers sans bandas, eh oui c'est obligé, ce souvenir des tournesols en salle depuis aujourd'hui. Il fallait aller à Cannes, et on s'est habillé pour ça. Je ne vois pas pourquoi nous n'y serions pas allés.
Oui, c'est le grand saut du Gers à Cannes. Et oui, on y était avec Partir un jour, hein, d'Amélie Bonin, oui. Avec Juliette Armanet, Bastien Bouillon et François Rollin. Alors que Cécile s'apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l'infarctus de son père. Et loin de l'agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse et ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent. Projeté mardi soir en ouverture de la 78e édition du Festival de Cannes, en même temps que dans toutes les salles de France, ce qui nous a permis de le voir. Le film musical d'Amélie Bonin a tout pour faire chanter les spectateurs. Il y a peu de chance, bien sûr, que Robert De Niro, tout juste récompensé d'une palme d'or d'honneur, annonce le Loir-et-Cher de Michel Delpech en sortant du Palais Festival. Mais entendre un air de Dalida courir dans les rues à la fin de la séance n'est pas à exclure. D'ailleurs, Guillaume, à la fin du film, vous chantiez.
Oui, très
nous
bien.
Avons des images et de l'audio. Un premier long métrage métrages français pour lancer donc le plus grand festival du monde. Le pari tenté par le délégué général Thierry Frémaux est audacieux, mais il est gagné. N'en déplaise aux grincheux, oublieux de films d'ouverture glamour, clinquant et insipide. On se rappelle le Gatsby, le magnifique, qui était horrible. Grâce de Monaco, que tout le monde a déjà oublié. Et Minuit à Paris, de Woody Allen. Or, Frémaux l'a présenté comme une sorte de « On connaît la chanson hein, », le grand film sur la dépression sous ses airs fantaisistes. Et comme Alain René, Amélie Bonin fait chanter ses personnages. Les dialogues cèdent la place aux paroles de tubes du répertoire de Nougaro à Stromae. Et Juliette Armanet donne l'impression d'avoir fait ça toute sa vie, cuisiner et puis jouer à la comédie. Bastien Bouillon, lui, est méconnaissable en blond peroxydé, solaire, drôle et charmeur, avec Chili Gonzalez, le fameux compositeur qui revisite Partir un jour. Vous connaissez cette chanson, tube des années 90, la chanson des To Be Free, un boys band. Hein,
son
qui,
retour.
Voilà,
pour aller à Carrefour, c'est ça non
vous, alliez, vous, alliez tout, vous aviez tous
à
les
Carrefour,
albums.
C'est ça, oui, oui.
Vous aviez tous les albums.
Guillaume. Oui, tu as fait les posters aussi.
Les oui. To Be Free, oui, les posters. Oui, ma sœur avait ça, je vous dis pas. Bon, enfin, bon, bref, et transforme la guimauve du boys band en balade enivrante. On parle du grain de la voix comme du grain de l'image, mais à Partir un jour, on n'en manque pas. Juliette Armanet et François Rollin n'ont pas la même technique, mais font passer la même émotion, celle que seul procure un comédien se glissant dans la peau d'un personnage. Un père qui chante, il y a cette très belle scène avec ce père donc, qui chante mourir sur scène en épluchant des patates dans sa cuisine, ça pourrait être ridicule, mais c'est ici déchirant. Messieurs, vous voulez dire un mot sur ce film ?
Il est proprement magnifique, réussi, et vous l'avez dit, un film musical, et non pas un film chanté.
C'est pas une comédie musicale.
Et c'est pas une comédie musicale. Vous vous souvenez, il y a justement 30 ans aussi, on connaît la chanson.
Oui.
À cette différence, c'est que là, vous l'avez dit, les comédiens chantent les chansons, alors que dans On connaît la chanson,
oui, c'était l'original.
C'était l'original.
Ils faisaient
du playback. Mais le principe est le même. C'est-à-dire que les personnages chantent parce que leur humeur les amène à chanter justement cette chanson et pas une autre. Voilà en quoi le film d'Amélie Bonin est réussi. Et puis les acteurs sont formidables. Juliette Armanet, Bastien Bouillon, vous l'avez dit, François Rollin, Dominique Blanc dans le rôle de la maman.
C'est vrai,
tout, tout. Et les copains aussi, il y a les scènes avec les copains, c'est magnifique. Et puis il y a un autre acteur qu'on voit un peu, ben c'est quand même le Loir-et-Cher. Alors, c'est pas Michel Delpech, on le rappelle, qui chante le Loir-et-Cher dans le film, c'est bien Bastien Bouillon, avec ses copains pêcheurs, parce qu'à un moment, il y a une fête au bord d'un lac et d'un étang et d'une rivière, et ils sont là à chanter les pieds dans l'eau. Hein, justement, c'est le meilleur endroit pour chanter la chanson.
Oui. Et le film fait écho à ce souvenir des tournesols, ce film.
Ben oui.
On est dans la ruralité, le lac, tout ça.
Oui. Et puis revenir pour se réconcilier avec son passé, pour mieux recommencer son présent. C'est ça qui est montré aussi dans le film d'Amélie Bonin.
Il me semble
parfaitement réussi.
Il me semble que son premier court-métrage portait le même nom.
C'était le même titre et c'était la même histoire. Alors pour ceux qui ont vu le court-métrage dont je fais partie, ne soyez pas surpris parce que les rôles sont inversés. C'est-à-dire que dans l'original, c'est le personnage masculin, c'est-à-dire Bastien Bouillon, qui revient et c'est elle qui est restée.
Genre une préhistoire alternative un peu.
Exactement. Exactement, et ça marche diablement bien, parce que quand on a vu le premier et qu'on a beaucoup aimé, et on n'a pas été les seuls à l'aimer, puisque le court-métrage avait eu le César du meilleur court-métrage, eh bien, on n'est pas déçu par celui-là, parce que il complète et il ajoute encore à cette histoire de façon magnifique.
Entre guillemets, on est entre Cauchemar en cuisine et N'oubliez pas les paroles.
Oui, un petit peu.
Un bon mix des deux.
Un petit peu. Et je vous propose, avant que vous jetiez un coup d'œil sur le reste de l'affiche de la semaine, Laurent, de continuer à parler un peu de calme. de Cannes, dans le calme, bien sûr. Calme, oui. Oui, même si on a toutes les admiratrices de Guillaume Sidom qui sont là pressées à
oui,
vouloir
si monter. Vous tendez l'oreille, vous les entendez crier.
Oui, oui, oui. Et alors, on s'est amusé avec l'ouvreuse à vous faire une petite bande-annonce avec un montage de films qui sont présentés dans la compétition, juste pour vous faire entendre les différentes langues qu'on entendra dans ces films.
Quelle donne alle Bibbie stanno dentro anche quando stanno fuori. Così quando siamo insieme mi sento dentro anch'io. Libera.
Continue leading our town and fighting the pandemic and the racial and economic.
Ma ho un racing con una del panino un shower.
On s'en sort?
On s'en sort.
Quand je suis arrivée ici, vous m'avez aidée à pas avoir honte d'être une mère célibataire.
Je veux pas revenir dans le passé, mais je t'en ai déjà prêté de l'argent.
Je me réjouissais tellement de te tenir contre moi, mais je sens rien.
T'es plus ma sœur.
Je veux qu'il ait des parents qui l'aiment. Je veux plus connaître la misère, je veux m'en sortir.
Alors, 22 films dans la sélection officielle, 22 films qui peuvent prétendre à la distinction suprême de la Palme d'Or. C'est-à-dire que à Cannes, hein, depuis l'année dernière, c'est le festival de tous les records. Cette année, tenez-vous bien, 2909 films étaient en compétition pour être parmi les 22 sélectionnés. C'est assez énorme, en provenance de 156 pays. Donc le festival ne faillit pas à sa réputation de premier festival du monde. Il y a quelque chose quand même qui fait que ce festival est un peu prescripteur. Hein. Un aura qui a été Palme d'Or a eu 5 Oscars à Hollywood. Et puis il y a Emilia Pérez qui a diablement bien marché, qui aurait encore mieux marché à Hollywood s'il n'y avait pas eu ces problèmes sur lesquels on va pas revenir. Et puis il y avait The Substance aussi, oui. il faut se souvenir de ça. Et donc parmi les 22 films qu'on peut voir, il y a ceux que dont vous avez entendu quelques extraits. Il y a le Mario Martone, le réalisateur italien qui présente Fuori. Il y a Ari Aster avec Eddington. Là aussi, il y a du lourd parce que dans son film, il y a Joaquin Phoenix et Pedro Pascal. Il y en a un qui a été récompensé déjà à Hollywood, ouais. L'autre qui est en quête de récompense. Donc là aussi, ça va claquer. Il y a le film de l'Égyptien Tariq Saleh, c'est Les Notes Orientales que vous avez entendu, Eagles of the Republic, l'histoire d'un grand acteur à succès qui a la réputation sa réputation est entachée. Alors donc il y a le gouvernement qui lui propose de faire un biopic à la gloire du président Al-Sissi. Il n'a pas d'autre solution que d'accepter. Donc on se demande, en tout cas Eagles of the Republic, on attend beaucoup. Et puis l'épisode français de la bande annonce, c'est évidemment Jeune Mère, les frères Ardennes qui reviennent encore une fois.
Les habitués.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, c'est l'histoire de 5 toutes jeunes filles et jeunes mamans. Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma qui sont hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeunes mères. Mais il n'y a pas que, hein. Il y a Jafar Panahi, Wes Anderson.
Joachim Trier.
Oui, il y a les réalisatrices, on l'a dit. Il y a Avzia Herzi, qui a eu le César du meilleur rôle féminin pour Borgo cette année, en 2025, et qui présente sa première fois. Alors c'est pas son premier film, hein, c'est son troisième, je m'exprime mal, mais c'est la première fois qu'elle est en compétition officielle avec La Petite Dernière. Il y a Julia Ducournau qui revient, hein, rappelez-vous, elle avait eu la Palme d'Or en 2021 pour Titan. Cette fois-ci, ça s'appelle Alpha. Et puis, dans ce film, il y a Tahar Rahim et Golshifteh Farahani. C'est vous dire. Notez que aussi Richard Linklater, le cinéaste, revient dans son film, qui sera donc en compétition, sur une période culte du cinéma français. Ça s'intitule Nouvelle Vague, et c'est une plongée dans les coulisses du tournage d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Alors bon, vous avez vu l'affiche, en fait il y en a deux, mais pour c'est le même hommage au même film, un homme et une femme. Une fois, on voit bien le visage d'Anouk Aimée, puisque c'est elle qu'on voit de face, et c'est Trintignant de dos qui l'étreint, et après la même étreinte est photographiée de l'autre, donc on voit le visage de Trintignant. Vous l'avez reconnu, cette affiche. C'est Tarantino qui a ouvert la 77e édition du Festival de Cannes de façon un peu...
En criant.
En criant et en imitant la démarche d'un robot. Et il est l'invité d'honneur de Cannes Classique, qui va présenter d'ailleurs deux westerns, de ses westerns favoris, le Mustang Noir et Sur le territoire des Comanches de George Sherman. Et il avait eu quand même la Palme d'Or en 94 pour Pulp Fiction. Et puis il y aura une version restaurée de La Ruée vers l'Or de Charlie Chaplin. Alors on reviendra bien sûr sur Tom Cruise, qui est là pour présenter le dernier volet des aventures d'Ethan Hawke. Mission Impossible. Le rideau va être tiré sur ces aventures, mais comment vont-elles finir? Au bout de 2h40, c'est sûr. Le film est présenté à Cannes demain. Des avant-premières le 17, samedi 17 et mardi 20 mai, avant la sortie pour le public le 21. Voilà les petites choses qu'on pouvait vous dire.
Peut-être la palme d'honneur à Robert De Niro.
Ah oui, il y a une palme d'honneur à Robert De Niro. C'était
remise par Leonardo DiCaprio.
Et puis, n'oubliez pas l'Acide Cannes aussi. Il y a les sections parallèles. Vous savez qu'il y a la quinzaine des cinéastes, la semaine de la critique. Il y a aussi l'Acide Cannes qui est... Alors, il faut que je retrouve mes notes pour vous donner la signification d'Acide. Cet acronyme un peu amusant, ça signifie l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion, et qui réunit plus d'une centaine de cinéastes qui promeuvent justement ces films de la marge, ces films qui manquent de, comment dire, de publicité, et en les faisant, en faisant venir ces auteurs à Cannes, en voilà, et ils proposent une sélection de 9 films, 6 films de fiction et 3 films, et 3 films documentaires. Notez que le film dont parlait la présidente du jury, Juliette Binoche, hier, dans son discours inaugural, concernant, vous savez, cette journaliste palestinienne tuée en avril dernier et qui est le personnage central d'un film. Bien, ce film n'est pas dans la sélection officielle, mais il est présenté dans la sélection Acide. C'est là qu'il faut aller le voir.
Et à propos de l'Acide, vous pouvez retrouver le podcast Mercredi Cinéma, puisque vous avez interviewé la directrice.
Une des cinéastes qui a fait la programmation. Ils sont 14 à avoir fait la programmation. Eux, ils n'ont vu que une bonne centaine de films, mais c'est déjà pas mal pour arriver à en sortir 9. C'est bien. Alors, le reste de l'affiche, juste allez, un petit jingle avant de vous laisser parler du reste. Laurent, le tour d'horizon des films de la semaine sera rapide ce soir.
Oui, avec Marco, l'énigme d'une vie, le film d'Aitor Arregui et John Garagno, avec Eduardo Fernandez. Enrique Marco est le président de l'Association des victimes espagnoles de l'Holocauste. Et à l'approche d'une commémoration, un historien conteste son passé d'ancien déporté. Marco se bat alors pour maintenir sa version, alors que les preuves contre lui s'accumulent. Alors, c'est une de ces histoires qu'aucun scénariste n'aurait osé inventer, et pourtant elle est vraie. Trop peu crédible, tant dans la personnalité de son personnage principal que dans les rebondissements scénaristiques que son jusque-boutisme engendre. Et pour la raconter, le duo Arregui-Garagno a longtemps hésité sur la forme. Le documentaire, ils ont longuement rencontré et filmé le vrai Marco, ou le docu-fiction, et puis finalement, ils ont penché pour la fiction. On comprend ainsi d'emblée que Marco n'a pas dit toute la vérité, et on vit ce récit dans la fascination totale de voir jusqu'où il peut aller dans le mensonge, alors qu'il se sait à terme condamné à être démasqué. Mais encore fallait-il être un acteur capable d'endosser les habits de Marco et d'en embrasser toutes les facettes, les paradoxes. Il est roublard, charmeur, charismatique, et de parvenir même parfois à nous faire douter, alors que toutes les preuves de sa supercherie sont sous nos yeux. Et ce que fait Eduardo Fernandez, l'acteur tient ici du prodige et permet à ce film, sans temps mort, de montrer que l'heure des fake news et de la post-vérité n'a pas commencé avec Internet ou les années Trump. Petite revue de presse, Marco est un biopic nécessaire et le récit d'une mémoire volée et violée, selon Le Parisien, première à moins aimée. Dans le rôle titre, Eduardo Fernandez a tendance à en faire des tonnes, tandis que l'ensemble, servi par une mise en scène consensuelle, s'englue dans l'anecdotique. À l'affiche aussi cette semaine, vous l'avez dit, très peu de choses, mais on peut jeter un œil sur The Shameless de Constantin Bodjanov, un film policier. À noter qu'Anasuya Segumpa avait eu le prix d'interprétation féminine dans la catégorie Un certain regard à Cannes en 2024. On peut voir Milli Vanilli, de la gloire au cauchemar de Simon Verhoeven. Vous savez, c'est ces chanteurs des années 90 qui, en fait, ils chantaient pas. Ouais.
Un playback.
Et ils dansaient pas non plus, c'était peu. Ça, c'est Coluche qui disait. On peut voir ce film au Grand Palais à Cahors, par exemple. On peut voir le blockbuster de la semaine, Destination Finale, Blindness, de Zach Lipowski et Adam Stein. On peut revoir aussi Hurry Up Tomorrow de Trey Edward Schultz, l'histoire d'une star de la musique. Et Se souvenir des tournesols, nous avons vu la réalisatrice Sandrine Mercier en ligne tout à l'heure. On peut voir son film, ben vous l'avez dit, je le rappelle, Louis-Marie, au CGR Montauban au Paris. Et sinon, à l'ABC à Toulouse.
Pour garder ses émois, écouter son cœur qui bat, pour savoir regarder un ciel étoilé, tendre les mains à son destin, vouloir plus fort encore demain, partir un jour sans retour, effacer.
La chanson « Partir un jour » telle qu'on l'entend dans le film. Eh oui, « Partir un jour », on l'entend chanté par Juliette Armanet au moment où elle retourne à la capitale dans sa ville pour aller ouvrir son restaurant hautement gastronomique, puisqu'elle a participé à Top Chef et elle laisse ses parents dans leur relais routier. Mais tout s'est bien passé, peut-être que tout... se sont réconciliés, finalement, tous ensemble. Partir un jour, sans retour.
Notre amour, sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour, sans bagage.
Allez, on retrouve tout de suite notre homme de loi des séries, on se dépêche.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, aujourd'hui, je vais vous parler de la saison 2 de The Last of Us, une série sur HBO, qui est l'adaptation d'un jeu vidéo célèbre. Alors, c'est très dur d'en parler, je vous avoue, mais moi, j'ai hésité, parce que c'est une série dite très, très inclusive. Et donc, quand on critique une série très, très inclusive, on a tendance à se faire traiter de tous les noms, disant qu'on est un immondariaque, que c'est compliqué. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut même plus critiquer les vrais défauts de la série. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'elle est géniale parce qu'elle est inclusive. Non, une série peut être géniale ou nulle, qu'elle soit inclusive ou pas. Le tout, c'est comment on traite les personnages, comment on a envie de raconter pas une bonne histoire. Pour recentrer le sujet, The Last of Us donc est l'adaptation de deux jeux vidéo qui ont été encensés par la critique. Le 1 de façon unanime, le 2 de façon très large, mais avec des accusations de wokisme assez fortes. Pour moi, je trouve que c'est des jeux intéressants, mais pas révolutionnaire. Moi, bon, pour ça, je me ferai insulter par tout le monde. La série suit deux personnages, Joël, joué par Pedro Pascal, et Ellie, joué par Bella Ramsey, dans un monde post-apocalyptique, avec des sortes, il ne faut pas dire zombies, mais ce sont des zombies, le zombie moderne qui se déplace vite, qui est très dangereux. Dans la première saison, l'objectif était de trouver un remède, étant donné que Ellie est immunisée. Et dans la saison 2, c'est faire face aux conséquences de la saison 1, et notamment le fait que Joël, pour sauver la vie d'Ellie, a refusé d'aller plus loin dans la recherche du remède, je reste un petit peu évasif, et a dû tuer un certain nombre de personnes. Donc, est-ce que cette série, elle est bien ou pas? Moi, j'ai plusieurs soucis dans cette série. Déjà, on nous vend saison 2 exceptionnelle, mort potentielle de personnages centraux. Je vais régler le problème très vite. Depuis Game of Thrones, tuer des personnages centraux, c'est has-been. Voilà, encore une fois, on a l'habitude. Maintenant, toutes les séries le font. En disant, ah, ça va vous surprendre. Ça ne nous surprend plus depuis la mort de Ned Stark, depuis la mort de Robb Stark, de quasiment tous les Stark. Hein. À chaque fois, on se rend compte qu'une série est capable de tuer son casting principal quand ça sert l'intrigue. Dans Game of Thrones, ça la servait. Dans The Last of Us, j'ai plus l'impression, même certains vont dire que si, parce qu'après il y a la quête de vengeance, j'ai plus l'impression qu'on est sur je chope pour choquer. Derrière, l'autre problématique, et là, attention, très très gros spoiler, donc ceux qui n'ont pas envie d'être spoilés de la saison 2, bouchez-vous les oreilles 3 secondes, on a donc le personnage principal de Joël qui se fait tuer en début de saison. Donc, là aussi, on est là pour choquer. Moi, je pense que c'est une erreur de faire arriver si tôt, parce que je comprends ce qu'il va dire derrière. Ça va être, est-ce qu'il se fait tuer par quelqu'un qui a envie de se venger des actions de Joël, et donc Ellie va rentrer elle-même dans la spirale de la vengeance. Donc, c'est le traitement de qui arrêtera la spirale de la vengeance. Alors, on dit c'est formidable, c'est incroyable, ça a été traité des milliers de fois, par le cinéma, par les jeux vidéo, par les romans. Donc, faut pas dire que c'est exceptionnel, ce n'est pas vrai. Ensuite, tuer Pedro Pascal, ça devient une habitude, j'ai envie de dire. Mais derrière, c'est quand même lui qui portait la série. L'actrice Bella Ramsey, et en contre, il y a plein de gens qui l'ont insultée. Il n'y a aucune raison de l'insulter. Elle fait son travail, mais pour moi, aujourd'hui, n'a pas le charisme nécessaire pour porter la série. Je pense que ça va s'essouffler. L'autre problème qu'il y a, et là, c'est là où je trouve que c'est une mauvaise adaptation par rapport au jeu, dans le jeu, on a vraiment cet aspect de Ellie qui va se venger et qui part en territoire ennemi pour se venger, qui est en danger constamment. Là, on a vraiment le wokisme qui prend beaucoup trop de place et on est dans un road trip amoureux entre Ellie et sa compagne. Ça prend trop de place, non pas parce qu'il ne faut pas traiter le sujet, mais à un moment, il faut se rappeler qu'ils sont entourés de zombies dans un territoire hostile où il y a un camp adverse qui veut les tuer. Est-ce que vraiment on a envie de voir un road movie amoureux? Non, si je veux regarder un road movie amoureux, je le regarde. Là, moi, je veux regarder du post-apo. La réalité, c'est que oui, il peut y avoir des histoires d'amour, mais la priorité, c'est la survie. Et c'est là où je trouve qu'en fait, le message woke prend la place sur la réalité de la série. Et c'est pour ça que je trouve que c'est raté. C'est qu'en fait, on ne sent plus, après la mort de Joël, qui était très attendue parce que tout le monde connaît ce qui se passe dans le jeu, on ne sent plus le danger. On sent juste que les scénaristes veulent nous faire passer un message d'inclusivité. J'avais ravi en première saison parce qu'il y avait eu un épisode spin-off presque, j'allais dire, qui filler, comme on dit, qui traitait d'un couple gay survivaliste. L'épisode était extrêmement bien fait, très sympathique, mais il arrivait très tôt dans la série et on sentait que c'était juste pour marquer le coup, alors que c'est plutôt un épisode qui aurait été bien de nous mettre entre les deux saisons. Bon, j'avais râlé sur le rythme, pas sur le thème. Vous voyez, je prends beaucoup de passages et là c'est la même chose. Je ne râle pas sur le thème, même si ça fait forcer, je râle sur le rythme et sur le fait qu'à un moment, il faut être sérieux. Ils sont en mode survie et pas en mode dragon. Donc en fait, on sent clairement que cette série nous vend de l'idéologie et nous vend pas de l'histoire. Je pense qu'elle va continuer petit peu à se perdre et que le départ de Pedro Pascal de la série va entraîner une perte totale d'intérêt par rapport à une actrice qui n'a pas le niveau pour porter le show. Peut-être que l'avenir me dira le contraire, mais en tout cas, pour ma part, c'était le dernier épisode que je regardais, parce que au final, c'est moins bien que le jeu. Je préfère retourner à jouer à The Last of Us. Je vous remercie.
Ben, jouer à The Last of Us, vous savez ce qu'il vous reste à faire. reconnaît la patte d'Angelo Badalamenti pour la musique, bien sûr. Bien sûr, pour la musique de quel film? Eh ben, pour un film de David Lynch, bien sûr. C'est L'Or et Lula, 1990, Palme d'Or à Cannes. L'histoire, la cavale infernale de C'est L'Or et Lula qui s'aiment plus, qui se réaiment. Et puis, il y a Perdida Durango. Et puis, il y a comment il s'appelle aussi, le compagnon de Perdida Durango. Peut-être vais-je arriver à retrouver un nom, parce qu'il y a Perdida Durango et l'autre c'est Bobby Peru et ça ne s'invente pas pareil. Isabella Rossellini et Perdida Durango et Bobby Peru, c'est Willem Dafoe quand même. Et le film, eh bien, est programmé dans la galaxie Burton. Mais non, je dis des bêtises, c'est Road Movie. Je mélange Road Movie. Ben oui, c'est un Road Movie le film. Il y a Road Movie, donc le film, vous pouvez le voir au musée des abattoirs le samedi 24 mai à 18h. Alors dans la galaxie Burton, il y a Frankenstein de James Whale en 1931, magnifique. Rien à dire sur le film, si ce n'est qu'il ne faut pas le rater demain, jeudi 15 mai à 19h30, ou bien vous irez voir L'Échine du Diable de Guillermo del Toro, qui est sorti en 2001 et qui est, elle, programmée, cette échine, jeudi, on a encore un peu de temps, c'est jeudi 22 mai à 19h30, on a le temps d'en reparler. Et puis, une dernière chose, le film Maudit de Michael Mann, qu'il avait répudié quand il est sorti parce qu'il n'avait plus la maîtrise du montage. La Forteresse Noire, un film de 1983, ressort dans une version restaurée en version originale, bien sûr, à voir au cinéma Pathé Wilson et dans un cinéma près de chez vous. Voilà pour les reprises sur le grand écran, sur le petit. C'est avec vous, Laurent.
Oui, le cinéma à la télévision cette semaine, ça commence dès ce soir sur sur France 4, à 21h avec Barton Fink, des frères Cohen, avec John Turturro et John Goodman. Histoire d'un écrivain dans le Hollywood des années 40 qui est en panne d'inspiration et c'est embêtant quand on doit écrire des scénarios. Hein.
Ça fait penser au créateur.
Oui, exactement. Une fable ironique et angoissante sur la création. Palme d'Or en 91 à l'unanimité, s'il vous plaît. Vendredi, France 5, 21h, Armageddon Time de James Gray avec Anne Hathaway en 1980 dans le Queens. Paul et Johnny se découvrent immédiatement des affinités. Une amitié va naître, une évocation subtilement autobiographique, hein, émouvante à plus d'un titre. Samedi, France 4 à 21h, Le Conte de la Princesse Kaguya, un film d'animation d'Isao Takahata. Un vieux monsieur trouve une minuscule princesse dans une pousse de bambou, il la ramène chez lui, elle se transforme en bébé et avec sa femme, il décide de l'élever comme s'il s'agissait de leur fille. Poétique, envoûtante et originale, une véritable splendeur esthétique. Dimanche, France 2, 21h10, on pourra revoir Jeanne Dubarry de My Wen avec My Wen et Johnny Depp. Et ensuite, nous pourrons voir, messieurs, je vous propose un film turc de 3 heures, ça vous dit ? Lundi, Arte, 22h55 pour les couches tard. Les Herbes Sèches de Nuri Bilge Ceylan, l'histoire de Samet qui vient d'Anatolie. Il est accusé de comportement inapproprié auprès de deux élèves de son établissement scolaire. Belle maîtrise et un drame captivant. Le conseil de lecture, ce sera Tapis Rouge et Lutte des Classes, une autre histoire du festival de Cannes, de Tanguy Perron. Le festival de Cannes, le Tapis Rouge, son défilé de stars, le Capitaine des Flashs. Qui pourrait se douter que derrière la clinquante vitrine de la manifestation la plus prestigieuse du 7e art se cache une toute autre histoire. Vous la découvrirez avec ce livre aux éditions de l'Atelier pour 15 euros. Voilà pour le cinéma à la télévision cette semaine.
Je ne comprends pas l'énoncé de la question là.
Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas. Mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un papa. Cécile, ma fille, quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, elle me dit, allons, jubile.
François Nougaro, en tout cas sa chanson, on la retrouve bien dans Partir un jour, mais ce n'est pas lui qui la chante, mais François Rollin et Juliette Armanet au fond de la cuisine du resto routier. Messieurs, quels sont vos coups de cœur ?
Les coups de cœur, partir un jour, Marco, l'énigme d'une vie et se souvenir des tournesols.
Partir un jour, se souvenir des tournesols, chocolat au Patty Wilson, et puis le Patty Wilson fait son cirque, 4 ou 5 films magnifiques à découvrir ou redécouvrir.
Eh bien, pour ma part, ce sera comme vous, messieurs. Ben oui, il n'y a pas de raison que je me prive d'aimer et de vous conseiller Partir un jour d'Amélie Bonin, Se souvenir des tournesols de Sandrine Mercier et Juan Gordillo Hidalgo, et La forteresse noire, hein, de Michael Mann. Oui. Et puis, on va pas ôter nos smokings, on va les garder, n'est-ce pas, messieurs,
toujours, oui. Voilà.
Et un clin d'œil à la Sitcane aussi. Messieurs, merci.
Merci à vous.
Bonne soirée à tous, à mercredi.
Oui, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. À 20h, vous retrouvez Nathalie Cardon, sur présence, bien sûr. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En dehors du temps d'écouter la radio, allez au cinéma. Salut!
Écoutez Présence, c'est votre radio. Soutenez Radio Présence, qu'elle devienne aussi la radio de beaucoup d'autres.